De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel.
Bonjour à tous et bienvenue sur rmc.fr pour la version audio et sur 01nettv.com et sur YouTube, la chaîne YouTube de 01nettv pour la version vidéo de quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à l'actualité high-tech en ce 26 septembre 2019. Je suis ravi de vous retrouver. Au menu de ce de quoi je mêle tout à l'heure, Victor Jakimovic, on sait le grand retour, sera avec nous avec une sélection de montres connectées pour cette rentrée, des Garmin, des Fitbit, mais aussi des WeSings qui ont de plus en plus de fonctions santé très intéressantes. On verra ça tout à l'heure avec Victor. La page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Vous pouvez la rejoindre et partager tous les sujets high-tech que l'on évoque chaque week-end. Et puis bien sûr, le hashtag DQJMM sur Twitter. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous.
De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.
Et on commence ce De quoi je me mêle par le club de la presse IT. À ma droite, Christopher Siminelli. Bonjour Christopher.
Bonjour François, bonjour à tous.
Le directeur de la rédaction de 01net.com qui est là pour commenter l'actu high-tech de cette semaine. Et en renfort, c'est Emmanuel Paquette. Bonjour Emmanuel.
Bonjour François.
Emmanuel Paquette qui est journaliste à l'Express et qui a pas mal de sujets à commenter cette semaine. On va parler d'Amazon, on va parler de Free aussi. Mais pour débuter, c'est une petite révolution pour tous ceux qui prennent, les millions de franciliens qui prennent les transports chaque jour. Vous en avez marre de votre passe Navigo ou alors de votre ticket papier. Eh bien, tout ça est en train d'évoluer lentement, Christopher, ouais. Mais on se rapproche de la dématérialisation en fait du ticket.
Alors seulement que tu parles de révolution, je pense que nous parisiens qui sommes toujours censés être à la pointe, on va passer pour des gros ringards auprès de certains habitants de villes, villes en France qui ont mis ça en place depuis quelques années déjà, mais en tout cas c'est enfin possible, il est enfin possible d'utiliser son smartphone pour valider son entrée dans le réseau de la RATP, donc soit les bus ou le métro.
D'accord, alors comment ça marche?
Alors une fois qu'on a dit ça, on se dit ah, mais c'est génial, ça démarre quand? Ça démarre le 30 septembre, mais attention, il faut remplir certaines conditions. La première, c'est d'avoir un téléphone Samsung. Bon, ça tombe bien, c'est un fabricant qui distribue beaucoup de smartphones en France. Mais l'autre condition, c'est d'être abonné chez Orange, parce que seules les cartes SIM Orange sont compatibles avec le protocole Calypso, qui a été mis en place par la RATP en 93, ça ne nous rajeunit pas. Et donc, ce protocole n'est pas compatible avec les cartes SIM des autres opérateurs, ni même avec les systèmes sans contact des autres fabricants de smartphones. Pour la petite histoire, donc évidemment, les possesseurs d'Apple, d'iPhone ne pourront pas utiliser leur titre de transport dématérialisé. Et Anne Hidalgo, lors de la conférence de presse, a invité fermement Apple à revoir sa position, à rendre ses iPhones compatibles avec Calypso, sous peine de voir les utilisateurs d'iPhone passer sous Android. Je pense qu'Apple est en train de trembler présentement.
Oui, alors justement, ça arrive quand chez Apple?
Alors, on ne sait pas. On n'a pas de nouvelles de l'arrivée de ce système chez Apple. On peut quand même aussi rappeler quelques autres contraintes. On peut en dématérialiser, on pourra acheter des tickets à l'unité, en carnet de 10, à la semaine ou au mois. Donc le pass annuel n'est pas éligible à cette offre-là. Et les titres de transport sont liés au smartphone. Si vous perdez votre smartphone, vous perdez votre titre de transport. Voilà, il n'y a pas de...
D'accord.
Le cloud n'est pas encore arrivé à Paris, apparemment.
Très bien. Alors, petite précision par rapport à ce que tu disais.
Oui.
D'après ce que j'ai compris, en fait, parce que évidemment c'est très compliqué. Vous savez que quand c'est français, ça devient très compliqué. Hein, techniquement, c'est toujours un peu notre spécificité. Pour préciser ce que tu as dit, en fait, si on est abonné Orange ou Soch, ça marche sur à peu près n'importe quel smartphone Android.
C'est ça.
Voilà. Oui, oui. Donc, même si ce n'est pas un Samsung, en revanche,
oui, c'est pas de conditions.
Si vous avez un Samsung, ça marche, même si vous n'êtes pas abonné Orange. Voilà, c'est
ça.
Vous prenez toutes ces infos-là, vous les mélangez.
Oui, je l'ai mal exprimé, t'as raison. Ce qui ouvre quand même plus de possibilités.
Voilà, c'est ça. Donc, mais alors, où là, ça devient un peu plus subtil, c'est que. Il y a des smartphones Android avec lesquels ça ne va pas marcher parce qu'ils ont une enclave numérique, enfin un système qui n'est pas assez protégé. Donc autant
on
vous dire que c'est
OnePlus,
la pagaille.
Notamment.
Voilà. En revanche, n'essayez pas de faire marcher votre smartphone si vous pensez que ça marche. Aux heures de grande affluence, moi j'ai essayé, ça ne marchait pas et je me suis fait crier par tout le monde parce que derrière il y avait une queue monstrueuse.
Classique.
Emmanuel, qu'est-ce que tu penses de cette merveilleuse avancée technologique?
Effectivement, on en parle depuis, je pense, un peu plus de 10 ans. Donc, ça met quand même beaucoup de temps à arriver. En plus, avec des limitations techniques dont on vient de parler. Donc, c'est quand même... c'est quand même assez stupéfiant de voir que même au bout de 10 ans, il y a encore beaucoup de contraintes et il faut quasiment un bac plus 12 pour comprendre quand est-ce qu'on peut l'utiliser, avec quel type de terminal. Donc voilà, ça c'est un petit peu inquiétant. Et puis le deuxième élément, c'est que autant avec l'arrivée des passes Navigo classiques, il y avait eu des problèmes sur la gestion de la vie privée, notamment la CNIL s'était emparée de ce passe pour savoir en fait comment on était suivi à la trace. Autant là, quand on va directement sur le site du passe Navigo, on voit que c'est quasiment rentré dans les mœurs, c'est-à-dire que il est normal de donner au travers de ces systèmes, notamment dans le smartphone, le fait qu'on soit suivi à la trace un peu partout. Donc il n'y a pas de possibilité d'opt-out, c'est-à-dire d'anonymiser ces déplacements. Donc ça, pour moi, c'est aussi une régression. Et de fait, ça suscite quasiment plus de débat dans la société, ce qui est aussi assez intriguant, je trouve, et stupéfiant. Mais voilà.
Après, ces données, j'imagine qu'elles ne sont pas disponibles pour tout le monde, bien heureusement. Mais on peut imaginer que, sous une injonction juridique ou quoi que ce soit,
un juge peut
demander le tracé de tel ou tel individu à tel jour.
Il ne faut pas oublier que RATP est aussi l'une des plus grosses régies publicitaires de Paris. Oui. Donc, qui dit données de déplacement des Parisiens, c'est une mine d'or aussi pour les annonceurs la régie RATP.
Ouais. Très bien. Que penses-tu de l'absence, impressionnante d'Apple dans tout ça. On voit que Valérie Pécresse, lors de sa conférence de presse, a un petit peu prié Apple.
Elle dit Anne Hidalgo tout à l'heure, mais c'était Valérie Pécresse.
Oui, voilà, enfin que tout le monde est en train de dire, mais voilà, il manque Apple, etc. Ouais. Machin. Pourquoi Apple n'est pas présent? Est-ce que c'est politique? Est-ce que
non,
c'est technologique?
On sait que Apple, généralement, quand ils font un produit, c'est le même produit pour le monde entier. Ils font rarement des spécifications sur des pays et encore plus sur des zones géographiques. À l'intérieur
de
certains pays.
Là, malgré tout, c'est l'Île-de-France, c'est plusieurs millions d'individus.
Oui, mais c'est rien pour Apple, en fait. Au niveau mondial. Non, mais c'est vrai, c'est par rapport au marché chinois.
En termes d'image, c'est pas terrible.
C'est pas terrible. Alors, on verra si effectivement ils vont l'intégrer, mais je pense que la seule espèce de spécificité qu'ils avaient mis à un moment donné en place à un moment donné, c'était, tu sais, sur l'Europe, sur l'écoute au casque, puisqu'on avait un degré de décibels qui était inférieur à ceux des États-Unis, et donc ils ont dû se conformer à des spécificités européennes, mais encore une fois c'était européenne, c'était pas un pays et encore moins une région dans un pays, donc voilà, donc c'est des grands groupes mondialisés, globalisés. Je pense que ce type d'élément de spécificité, même si c'est Paris et sa banlieue, c'est quelque chose qui est vraiment secondaire pour eux, pour ne pas dire plus.
On peut juste mentionner un exemple à Londres, qui est passé à la démilitarisation aussi depuis un petit moment, avec un système que je trouve, moi, personnellement, plus intelligent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ticket de métro dématérialisé à proprement parler. Votre appli du métro londonien est liée à votre compte bancaire. À chaque fois que vous validez, vous passez un portique, vous êtes débité. Et il y a une gestion intelligente de ces passages, parce qu'au bout de 6 passages dans la journée, vous passez sur un forfait jour qui est plus intéressant pour vous. Donc c'est une approche qui est assez intéressante. Voilà. Et qui montre que, c'est en place à Paris.
Peut-être que ça viendra un jour.
Ça n'est plus tout à fait une révolution.
Peut-être que ça arrivera un jour
peut-être
chez nous.
Peut-être un jour, dans 10 ans.
Mais pour avoir posé la question à un haut VP chez Apple, il y a quelques mois de cela, il nous avait dit que c'était une situation qui les embêtait, qu'en fait, ils avaient des problèmes techniques de dialogue avec les bornes du Pass Navigo, mais qu'ils y travaillaient d'arrache-pied pour pouvoir proposer à leurs clients ce service très bientôt. Voilà. Mais après, vous savez qu'Apple, quand on leur pose des questions... Tu le sais très bien, Emmanuel et Chris aussi, on n'a pas toujours les réponses. On enchaîne avec Xiaomi qui a bien surpris tout le monde, Christopher, avec un téléphone qui a été présenté en Chine. Alors donc, on ne sait même pas si ça sortira chez nous, mais un téléphone assez étonnant.
Oui, on en parle ici parce qu'il est juste assez impressionnant ce téléphone. Rappelez-vous, Xiaomi, c'était le premier constructeur du marché à faire des smartphones avec, vraiment sans bordure d'écran, avec l'écran qui prenait quasiment toute la surface des smartphones. C'est aujourd'hui devenu un peu la norme, mais il y a trois ans, c'était assez exceptionnel. Donc là, ils vont encore plus loin avec un smartphone dont l'écran recouvre l'intégralité, enfin fait tout le tour du smartphone. Donc votre smartphone, c'est un écran double face sur les côtés, devant, derrière.
Le dos est un écran.
Le dos est un écran.
Le devant, c'est un écran. La bordure sur le côté, c'est un écran.
Exactement. Donc c'est franchement assez impressionnant. Il y a une partie, une bande pour je pense accueillir le contrôleur de l'écran OLED. C'est normal.
L'appareil photo
évidemment. Mais c'est tout simplement impressionnant de voir un appareil comme ça. Après, il est assez gros. On a vu des images tournées en Chine. Alors, On ne sait pas trop là sur les dimensions, si c'était la main de la personne qui était petite ou si c'était le smartphone qui était immense. Mais en tout cas, il
paraissait... Oui, les échelles étaient bizarres.
Ouais, les échelles étaient bizarres. En tout cas, assez énorme ce smartphone.
Oui.
Écran OLED, impressionnant visuellement. Maintenant, je suis curieux de savoir à l'épreuve du quotidien ce que ça va donner. Parce que d'avoir un smartphone qui est entièrement constitué d'écran, ça peut donner lieu à des fausses manips. Alors même si Xiaomi a annoncé avoir prévu le coup en désactivant certaines zones de l'écran en fonction de la façon dont on le tient. Voilà, déjà qu'on voit aujourd'hui qu'il y a certaines difficultés d'utilisation avec des smartphones avec des bordures incurvées ou avec certaines fonctionnalités qui sont pas toujours accessibles. Voilà, donc il y a un gros effet waouh. Faut voir au quotidien ce que ça donne.
Amazon, qui, pas plus tard qu'il y a quelques heures, a annoncé de nouveaux produits à Seattle. On va les découvrir. Alors, bon, il n'y a rien de révolutionnaire, hein, mais Amazon met à jour un petit peu toute sa gamme d'enceintes connectées en reconnaissance vocale avec Alexa.
Oui, on sent que Amazon suit le mouvement de la montée en gamme de tous ces appareils audio connectés, de tous ces assistants. Donc, il y a un nouvel Amazon Echo avec un meilleur son. C'est la même architecture audio que l'Amazon Echo Plus, pour ceux qui le connaissent. D'autres produits plus étonnants, là c'est nouveau, c'est un Amazon Echo Flex. Imaginez une prise électrique, murale, qui intègre un haut-parleur et l'assistant Alexa et une prise USB. Donc vous pouvez recharger votre téléphone. L'idée c'est d'avoir Alexa dans toutes les pièces de la maison. Et il y a le système drop-in qui permet, si vous êtes dans la cuisine, de dire à table à toutes les personnes de votre foyer dans toutes les pièces. Et donc c'est un système un peu de talkie-walkie, donc c'est marrant. Le nouvel Echo Dot,
bon, il faut avoir toujours grand appartement quand même.
Ouais, hein, c'est ça.
Enfin, une petite voix qui porte pas beaucoup.
Ouais, c'est ça. J'imagine quand les enfants vont s'emparer de ce truc, l'enfer que ça
va être. Ça va être l'enfer dans la maison. Voilà.
Nouvelle Echo Dot avec horloge, très rapidement. Et la grosse nouveauté, c'est l'Echo Studio, une enceinte avec Alexa à 199€ qui intègre un DAC 24 bits, pardon, avec un son vraiment de haute résolution. Et là, l'idée, c'est d'aller concurrencer les Sonos, les HomePod, Google Max aux États-Unis.
C'est assez intéressant parce que parallèlement à la sortie de sa enceinte, Amazon a annoncé le lancement d'un service de streaming en très haute définition audio.
Oui.
Donc ça a du sens, c'est-à-dire que
exactement.
Voilà, on lance Amazon Audio hyper qualité, on lance l'enceinte qui va avec, c'est pas mal.
Et il y a aussi enfin un produit très étonnant, qui ne sera pas en France, pas tout de suite, mais qui était présenté aux États-Unis, c'est l'Amazon Echo Ring, qui est en fait une bague.
Non.
Une bague noire qui... on ne sait pas si c'est encore à l'état de concept, mais en tout cas, on ne l'a pas vu dans la communication officielle de la France, mais la presse américaine l'a vu. C'est une bague Alexa et qui vous permet de donner des commandes en chuchotant votre doigt et donc c'est un peu un assistant Alexa qu'on aurait toujours sur soi. Donc assez marrant, la bague est assez discrète, noire.
Vous voyez que Jeff Bezos va offrir ça à sa nouvelle fiancée ou pas?
Ouais, veux-tu m'épouser?
Veux-tu m'épouser Alexa? Pardon, comment tu t'appelles d'ailleurs? Comment tu t'appelles? Tu t'appelles pas Alexa? Je te quitte.
C'est ça. Après, quelques petites nouveautés sur Alexa aussi. Intéressant, on peut régler la vitesse de l'intonation de la voix. Commandes, parfois sur les...
D'accord.
C'est vrai que tendance à parler trop vite ou pas assez vite au goût de certains. Donc on pourra ajuster selon 7 niveaux de vitesse. Et on sait qu'Amazon a fait l'objet de beaucoup de critiques à ce sujet. Il est désormais possible de supprimer ces enregistrements vocaux parce que vous savez que...
Tout était gardé, listé.
On se rend compte de la puissance de tout ça, mais on a accès à un historique avec l'ensemble de ces enregistrements et de ces commandes. Là, on va pouvoir les supprimer manuellement et dans quelques mois, pouvoir les supprimer automatiquement au bout de certains jours.
Emmanuel, comment ces annonces?
Il y a aussi les écouteurs, sans fil. Donc là, Amazon essaie de concurrencer directement Apple avec un prix qui est beaucoup plus bas, parce qu'Apple, ils ont 53% de part de marché aujourd'hui sur les écouteurs sans fil, donc ils règnent quasiment en maître dans ce secteur-là.
C'est devenu carrément un objet de mode, hein, les AirPods. Hein. Tous les gamins aujourd'hui ont des AirPods. S'ils n'ont pas des AirPods,
c'est moins cher en plus.
C'est statutaire. Parce que
Amazon arrive en plus en cassant les prix, comme à son habitude, et en intégrant a priori Alexa, de ce que j'ai compris aussi dans ces écouteurs. Donc on voit qu'en fait, ce qu'essaye de faire Amazon, c'est encercler le consommateur avec plein d'appareils utilisant Alexa, à défaut d'avoir le smartphone, puisque le Fire avait été un échec total.
Un échec cuisant.
L'idée, c'est de se mettre avec des terminaux qui entourent le smartphone et tous équipés d'Alexa pour créer un écosystème indépendant du smartphone, mais en même temps lié au smartphone. Et donc ça permet de remettre un pied dans la porte pour Amazon sur ce qu'on appelle le wearable computing, hein, c'est-à-dire je sais pas comment on traduirait ça en français, mais c'est les ordinateurs, enfin c'est les composants portés ou portables. Donc il y a aussi des lunettes qu'ils ont présentées, donc des écouteurs. Donc ils essaient d'arriver, et les bagues dont parlait Christopher, donc ils arrivent sur tous les domaines d'objets connectés reliés au smartphone pour essayer de capter un maximum de données. Donc on voit quand même que Amazon prend vraiment une empreinte assez forte dans le hardware. Bien plus que ce sur quoi on pouvait imaginer au départ, et surtout essayer de monter en gamme, comme le disait Christopher, avec des enceintes beaucoup plus chères, avec une qualité de son beaucoup plus élevée, que, puisque là on arrive sur du RAW, du brut quasiment, en termes de fichiers d'écoute. Donc on voit que Amazon ne fait pas simplement des produits haut de gamme, mais essaye aussi de monter.
Ouais, et puis en parlant du prix, beaucoup plus cher, oui et non, parce que si tu regardes l'Amazon Echo Studio, 199€, on reste quand même bien moins cher que le HomePod. Alors j'ai plus le prix en tête,
oui,
mais
qui est, c'est au moins
350. Donc, et un Sonos, les Sonos, on sait qu'il n'y a rien en dessous de 400€ à peu près dans cette gamme de rendu audio. Voilà. Et pour revenir sur ce que tu disais, Emmanuel, effectivement, Amazon, il veut créer un maillage, encercler un peu tous ses utilisateurs avec des services, des produits. Et d'ailleurs, ils ont présenté aussi hier des routeurs Wi-Fi pour la maison, routeurs slash répétiteurs qu'on met dans la maison. Et évidemment, le but, c'est quoi? On dit, mais c'est quoi le but d'Amazon pourquoi avec des routeurs Wi-Fi? Routeur Wi-Fi égale application, où je vais pouvoir les paramétrer. Application égale création d'un compte. Amazon.
Oui, bien sûr. Et puis voilà. Surtout, ça permet à tous ces objets connectés dans la maison de mieux fonctionner. Parce que si vous avez un Echo qui est dans la salle de bain et que bien le Wi-Fi passe pas bien, il va pas bien marcher. Alors que si vous couvrez bien le Wi-Fi, c'est plutôt malin de la part d'Amazon de se dire voilà, on va mettre un bon Wi-Fi à la maison pour que tous nos objets marchent, puissent mieux nous écouter encore.
C'est exactement ce que fait Google aussi, qui a aussi ses propres répétiteurs Wi-Fi.
Mais quand on réfléchit, on se rend compte que tout ça n'est jamais innocent.
L'idée, c'est que ça soit lié derrière sur un compte Prime. C'est ça l'idée pour eux, c'est d'augmenter la base installée des abonnés à Prime, donc la livraison rapide.
On enchaîne avec Free qui a bien surpris tout le monde. Alors on savait que c'était un peu dans les tuyaux, parce que je crois qu'ils avaient même une obligation réglementaire de sortir ce type d'appareil. Mais voilà, ça y est, c'est arrivé. Free lance sa box 4G.
Oui, lance sa box 4G+. C'était le dernier opérateur à ne pas proposer de ce type de produit. Donc, c'est fait depuis hier. Donc, avec une box 4G+, qui promet des débits supérieurs à ceux des autres opérateurs qui ont des solutions similaires. On se parle de 260 mégabits en download en 4G+, et jusqu'à 50 mégabits en upload, ce qui est plutôt pas mal sur du réseau 4G+. Bon, les autres opérateurs derrière sont pas très loin de ça, mais de manière assez logique, comme c'est des boîtiers de la génération
de dernière génération,
les débits sont un peu moins élevés. Voilà, que dire de plus? Le tarif, 29,99€ par mois chez Free, c'est un tarif qui est très abordable par rapport à ce que fait la concurrence. 42,99€ chez Bouygues, 36,99€ chez Orange et 35€ chez SFR. Donc c'est l'offre la plus abordable du marché. À qui
Alors il y a 250 Go de data. Hein,
et 250 Go de data, c'est très important.
C'est important, c'est-à-dire que voilà, au-dessus de 250 Go, vous allez avoir un débit réduit, ce qui n'est pas le cas par exemple chez Bouygues, qui propose une offre un peu supérieure, mais qui est aussi, elle, illimitée.
Et avec les appels aussi illimités. Dans l'offre de Free, il n'y a pas les appels. Je vous invite à aller sur 01net.com. On a comparé vraiment les quatre offres du marché avec ce qu'intègrent à chaque fois les forfaits. Qui est éligible à cette offre? Pas tout le monde. Et pour être éligible à cette offre, il faut être dans une zone qui n'est couverte ni par la fibre, ni par la DSL, et dans une zone qui est couverte en 4G+ de Free. Donc je pense que ça ne doit pas concerner énormément de personnes en France, parce qu'il faut que ce soit de la 4G plus en zone rurale, où il n'y a pas ni la DSL ni la fibre.
Ou alors un ADSL faible.
Ou un ADSL,
qui soit quand faible. On est en bout de ligne. Et si on capte encore la 4G de Free, ça peut avoir le
coup. Ce qui est marrant, c'est que ça fait partie d'une offre, des offres mobiles de Free, et non pas des offres fixes. Là, c'est étonnant. Donc, si vous voulez des plus de renseignements là-dessus, il faut aller vers les
offres mobiles. Donc, pas de télé, pas de service associé. Enfin, voilà, vous avez 250 gigas, vous en faites ce que vous voulez. Et voilà, quoi. Emmanuel, oui, donc Free rattrape un peu le wagon de ces box 4G qui se généralisent un peu.
Eux qui sont très forts en communication, la communication était plutôt relativement faible sur ce type d'offre. D'une part parce qu'ils arrivent effectivement, comme le disait Christopher, à la fin du processus qui avait été ouvert par Bouygues Télécom. Ils ont été les premiers à pousser ce type d'offre.
Il y a 2 ans au minimum, je crois.
Exactement. Hein. Ouais. Et qui aussi s'inscrit dans ce qu'on appelle le New Deal des opérateurs télécoms, c'est-à-dire de couvrir le maximum en 3G, 4G, la population française, notamment dans les zones où il y a peu de population, parce que là c'est coûteux et il n'y a pas vraiment de modèle économique parce qu'il y a peu de gens qui s'y abonnent. Donc c'est une obligation maintenant sur lesquelles les opérateurs se sont engagés, en même temps que la 5G qui arrive, donc ça leur fait double coût de déploiement pour les opérateurs, donc qui, en ce moment qui font un petit peu la tête, hein, puisqu'il y a beaucoup d'argent à mettre sur la table. Et effectivement, c'est une obligation légale aussi, donc Free le fait après tout le monde, s'accordent avec la loi après tout le monde, alors que par ailleurs, ils ont quand même tellement d'autres chantiers, notamment en Italie, etc. Donc on comprend que pour Free, ce n'était pas forcément prioritaire, mais en même temps, ils étaient obligés de le faire. Donc ils arrivent la dernière avec une offre... bon, je laisse le soin à chacun de juger si elle est séduisante ou pas.
Oui, après, il faut savoir que Free a la moins bonne couverture 4G des autres opérateurs. Hein, donc
elle se repose encore en partie sur l'infrastructure Orange, en plus.
Voilà.
Donc plus vous consommez chez Free dans des zones peu denses, généralement, plus vous consommez chez Orange, et donc ça coûte cher à Free.
Avec des débits qui sont loin de ceux des 260
mégabits. Oui. En 4G, on parle de 150 mégabits en débit accessible avec cette box.
On enchaîne avec, pour terminer, annonce qui est un peu B2B, on va dire, mais qui nous intéresse tous parce qu'on consulte tous Google, hein, forcément au quotidien, et peut-être tout comme nous, vous consultez Google News. Et en fait, Google a annoncé pas mal de choses assez étonnantes concernant Google, à la fois Emmanuel et Chris. Alors, je ne sais pas qui veut ouvrir le bal, peut-être.
Emmanuel, vas-y.
Et après, bon, tu pourras peut-être donner ton avis aussi, hein, Chris,
oui.
Puisque tu es directeur de la rédaction de 01, donc ça a du sens. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine?
En fait, Google a fait ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire qu'il a fait du Google comme ils l'ont fait par le passé dans d'autres pays, c'est-à-dire que les éditeurs de presse demandent à être rémunérés sur les faits qu'il y a ce qu'on appelle les snippets, c'est-à-dire, tu sais, c'est les titres des articles avec les premières phrases et une photo. Donc les éditeurs de presse en Europe ont dit, ben non, ça suffit, oui, il faut nous rémunérer.
Pour qu'on comprenne bien, je tape, je sais pas moi, Xiaomi, et je vais avoir sur Google des titres d'actualité qui vont arriver juste en dessous.
Voilà,
d'accord,
donc ceux de 01net par exemple,
voilà,
ou ceux de l'Express.
L'Express, pourquoi pas. Et donc, qu'est-ce qui change là? C'est-à-dire qu'il y aura moins d'informations,
c'est ça,
qu'auparavant.
Voilà, Google a dit, on vous déréférence pas, on ne vous paye pas, mais on ne vous déréférence pas, on mettra simplement le titre, pas de photo, éventuellement un petit descriptif de ce qu'il y a dans le papier, mais c'est tout. Et si vous voulez plus,
c'est quoi,
vous,
c'est
les
le
éditeurs,
chapeau, comme on dit,
ouais,
dans le...
même pas le chapeau, hein, je crois.
En fait, ça va être des informations similaires à ce que vous retrouvez dans les résultats du search de Google,
c'est-à-dire exactement.
Le titre de la page,
voilà.
Qui dans chez nous, éditeurs de presse, est souvent le titre de l'article,
ouais.
Et les premiers caractères de, donc,
du papier.
La description, qui seront les premiers caractères du chapeau.
Du voilà, chapeau, c'est ça.
Ce qui est sous l'article.
Ouais. Alors, sous-jacent, il y avait cette volonté de la part des éditeurs de presse de se faire payer par Google.
C'est ça.
Donc Google leur dit, c'est bien sympa,
ouais.
Mais non.
Non.
Voilà.
On ne vous paye pas.
Et vous devez même nous remercier, en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que pendant la conférence de presse, le monsieur Google News a dit, non seulement on ne va pas vous payer, mais vous devriez nous remercier parce que grâce à nous, vous gagnez de l'argent.
Ouais, on vous apporte du trafic.
Ouais.
Et donc, des revenus publicitaires supplémentaires. Donc, après, l'éditeur a le choix. Il peut remettre, s'il le souhaite, une photo et remettre un descriptif un peu plus important de l'article. Mais à ce moment-là, il n'y aura pas de lieu à rémunération. Et il devra le dire à Google, je refuse toute rémunération. Mais je reviens au système précédent, c'est-à-dire ce qu'on voit encore aujourd'hui.
Donc on sait que comme la presse va mal, tout le monde va choisir la première solution en fait.
Il y a des chances, parce que la presse ne va pas se couper une jambe et réduire de moitié ou d'un tiers son trafic en tout cas. Ouais.
D'accord. On sait, Chris, ce que représente le trafic qu'amène Google News.
Ça dépend des sites, mais...
c'est anodin, c'est puissant.
Ça dépend beaucoup des sites. Bah, sur 01net.com, où effectivement on a un lectorat qui est quand même très connecté, très équipé en outils numériques. Google est un apporteur incontournable et majoritaire d'audience pour 01, mais pas que sur la partie news, aussi sur tout ce qu'on fait en termes de tests, de comparatifs, donc pas uniquement dans Google News, mais aussi dans le search.
Oui, c'est vrai que si par exemple vous écrivez iPhone sur Google, 01 monte très vite en fait, dans les résultats des moteurs de recherche.
Je ne peux pas donner ici la part d'audience de Google News, mais ce que je peux vous dire, c'est que quand Google modifie une micro-virgule dans Google News, on le voit directement dans nos audiences le lendemain matin.
Mm-hmm.
Donc c'est un impact important, économique bien sûr, mais aussi dans notre mission éditoriale qui est de rendre nos contenus accessibles au plus grand nombre. Donc Google News est un outil pour nous important. Et c'est sûr que Google, comme avec d'autres secteurs économiques, a créé une sorte de dépendance.
Bien sûr.
Avec les éditeurs de presse, comme avec les éditeurs de la comparaison de prix sur Internet, de la photo, de la vidéo, bref.
Et cette hégémonie est régulièrement discutée et remise en cause par la Commission européenne aussi.
Et la presse ne fait pas exception à cette situation.
Voilà pour cette histoire, alors qui est un peu, voilà, qui concerne, on va dire, la presse, mais qui était intéressante de vous faire partager, parce que mine de rien, bah, on est tous concernés hein, quand on va sur Google. Ouais. Voilà, à moins que vous alliez sur Quant, mais bon, ça c'est.
Non, après, il y a des alternatives, il y a Apple News, il y a Facebook, voilà.
Bien
sûr. Maintenant, il y a d'autres vecteurs aussi de trafic.
Twitter aussi, notamment. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Christopher Siminelli, le directeur de la rédaction de Zeronet.com. Et merci à Emmanuel Paquet de L'Express, bien sûr. L'Express version papier et version sur le web aussi.
Partout.
Et les applis.
Anywhere, any device.
Waouh. Formidable.
De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel.
De quoi je me mêle. Et pour cette fin septembre 2019, il a traîné avant de revenir. Mais que voulez-vous, sa Bretagne est tellement belle qu'il n'avait plus envie de venir. Il a fallu qu'on le tire avec un treuil, l'emmener ici dans notre studio du 15e arrondissement de Paris. Ça n'a pas été une mince affaire, hein, mais enfin il est là, c'est le retour de Victor Jakimovic. Bonjour Victor.
Salut François.
Alors j'exagère, mais peut-être pas beaucoup, hein, finalement.
Pas tant que ça, non. Effectivement, j'étais bien là-bas.
Victor Jakimovic, notre expert dédié aux nouvelles techno qu'on retrouve de temps en temps dans De quoi je me mêle avec énormément de plaisir. Victor qui, évidemment, dans sa Bretagne, en profite pour tester des produits. Et là, Victor, vous êtes revenu avec une espèce de sélection de montres connectées. Alors, on n'a pas que ça, mais il y en a quand même quelques-unes. Parce que finalement, on se dit qu'il n'y a pas que l'Apple Watch dans la vie. Il y a d'autres marques diverses qui proposent des montres connectées avec toujours cette fonction santé qui est de plus en plus présente, on a l'impression.
Alors, ça dépend. Mais enfin, c'est vrai que la fonction santé est particulièrement présente chez Withings, qui, comme on sait, s'intéresse depuis longtemps à la santé et qui a sorti à l'occasion de l'IFA à Berlin sa première montre santé capable de réaliser des électrocardiogrammes. Un électrocardiogramme, pourquoi, pour qui ? Ce type d'électrocardiogramme que l'on peut faire sur une montre, comme l'Apple Watch d'ailleurs.
Et qu'on peut faire depuis plusieurs mois sur l'Apple Watch. Hein.
Depuis plusieurs mois sur l'Apple Watch, premièrement doit être agréé par le secteur médical. Hein, et ça fait l'objet de tests très compliqués. Pour
c'est-à-dire
avoir...
qu'un constructeur ne peut pas sortir une fonction ECG sans le label médical, en fait, on est
s'il
d'accord.
S'il n'a pas l'agrément CE médical pour l'Europe, aux États-Unis, c'est un autre, mais c'est la même logique, où on compare les performances du produit à celles des matériels de référence.
Bien sûr, bien sûr.
Bon, si cette comparaison est positive, il peut avoir le label. Dans le cas de Withings, ça a pris plus d'un an. Hein, mais ça y est, à l'IFA, elle est sortie. C'est une petite montre assez civile. Mmh. Je veux dire qu'elle ressemble très classiquement à... une petite montre analogique, sympa.
Toujours le même look des montres Withings, c'est-à-dire que en fait il n'y a pas d'écran, hein, c'est
ça, c'est la Move, voilà. Hein, c'est-à-dire
il y a des aiguilles,
il n'y a pas du tout d'écran, on est analogique, on fait avec ça un électrocardiogramme capable de détecter ce qu'on appelle la fibrillation auriculaire ou atriale, les deux mots existent. Qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une arythmie. Il faut savoir que d'après les toubibs, à l'heure actuelle, à peu près 25% de la population souffre d'arythmie.
Le problème, en fait, c'est quoi ? C'est des troubles du cœur, rythme cardiaque, hein, je
du
crois.
Du rythme cardiaque, absolument. Donc, quand ça arrive, si ça dure assez longtemps, on a peut-être la chance d'aller prendre un rendez-vous avec son cardiologue.
Qui va le détecter.
Qui va le vérifier, le détecter, le contrôler, et à partir de là, savoir de quoi on parle. Le problème, c'est que des fois, ça apparaît, et puis quand on va chez le docteur, la panne n'existe plus, la fibrillation n'existe plus, elle n'apparaît plus. Donc, il ne peut pas détecter. Donc, il faut avoir... pour être plus efficace, quelque chose qu'on porte toujours. Et il est certain que ce qu'on porte toujours, c'est une montre.
Hein. Oui, c'est clair. Donc en fait, elle va détecter elle-même sans que je lui oblige.
Non, il faut lui demander.
C'est-à-dire que si, par exemple, on se sent pas bien ou quelque chose comme ça...
Si on sent qu'il y a un phénomène d'oppression...
Oui, tout à fait.
Si on sent que le cœur s'emballe... Mmh. Bon... On lance un processus qui prend 30 secondes et qui est tout simple. Il faut appuyer sur le bouton et
maintenir en fait son doigt
le contact, de façon à ce que le contact électrique soit fait avec les électrodes qui sont au dos.
C'est le même principe que sur l'Apple Watch d'ailleurs.
Exactement. Hein. Donc là, on va pouvoir faire ce relevé complet, un électrocardiogramme, que l'on va envoyer à son docteur. Et le docteur, puisqu'il y a un PDF qui sort automatiquement, et le docteur, sur l'application bien sûr, pas sur la montre, et le toubib en question, il va dire, ah bah tiens, oui, effectivement, vous avez ça à tel moment.
D'accord.
Donc c'est vachement intéressant. À part ça, c'est une montre d'activité tout à fait classique, simple.
Ouais.
Les pas, les calories, les escaliers, le sommeil.
Étanche ?
Étanche à 50 mètres théoriquement.
Et l'intérêt aussi, c'est l'autonomie. C'est-à-dire qu'on a une autonomie d'un an par rapport à une Apple Watch qui doit se recharger tous les jours.
Absolument.
Alors, c'est
dans
pas la
cette
même.
Montre,
voilà.
On a...
Faut comme pas comparer on a... l'Apple Watch et, celle, et cette
non.
montre. Hein,
mais comme on n'a pas ici de suivi cardiaque permanent, hein, il n'y a pas dans le dos les LED qui servent à mesurer le débit cardiaque, le débit sanguin, donc on consomme beaucoup moins, et en fait c'est une pile. Le problème de la pile, c'est qu'il va falloir la faire changer chez l'horloger,
voilà, c'est ça.
Ce qui a un certain coût. Mais bon, la montre coûte 130 euros, c'est pas très cher, enfin en tout cas comparé à un Apple Watch.
Pour quelque chose qui est vraiment très technologique, hein.
Ouais.
Franchement, c'est une vraie prouesse
technique
aujourd'hui.
Les gens qui souffrent de problèmes de hyparythmie,
bien sûr.
À mon avis, ils ont intérêt à se polariser là-dessus, hein. Très vite.
Victor, on reste toujours chez WeSings avec un autre appareil médical qui est sorti, je crois, au début de l'été.
Oui, je voulais parler de montre, mais comme on parlait je suis resté sur un autre produit de WeSings qui est tout à fait remarquable, qui est une belle invention, qui est un 3-en-1. C'est un tensiomètre. La tension, on appelle ça la mort silencieuse. Ça prévient pas.
dites-moi. C'est le docteur Victor aujourd'hui, les amis, sur RMC.fr.
Non, mais ça prévient pas.
ZeroNet
donc,
TV.
Quand on a de la tension, quand on souffre d'hypertension, il est nécessaire de se contrôler régulièrement.
Mais alors,
des tensiomètres, il y en a
des
plein.
Des tensiomètres connectés, ça fait des années que ça existe.
Agréé
oui,
médical, un peu moins. Celui-ci est agréé médical. Mais celui-là est un 3-en-1. C'est un tensiomètre, mais il est capable de faire le même relevé d'électrocardiogramme, l'ECG, le même ECG, que la montre en question qu'on vient de voir. Et il est en plus muni d'un stéthoscope qui permet de mesurer le bruit du cœur. Et en mesurant et en enregistrant, bien sûr, le bruit du cœur, on peut détecter des valvulopathies, c'est comme
ça
que ça
s'appelle,
des souffles au cœur, un certain nombre de choses. Donc c'est un vrai, vrai, vrai outil médical. Qui est capable de fonctionner en autonome, parce que viennent s'afficher sur
des
la bordure blanche les informations, mais qui sont bien sûr récupérées dans l'application. Je précise que l'application, c'est la même application que la montre, c'est la même application que la balance, et que cette application est, chez WeSings, particulièrement bien faite. Elle est très pédagogique, très pas à pas quand s'agit d'installer un produit. Ils ont vraiment fait un boulot
d'enfer.
Super qualité.
Mais franchement, alors plus on avance dans l'âge, plus on devrait avoir ce type de produit à la maison, et même à terme, ça devrait être remboursé par la Sécurité sociale, ce truc-là. Parce que ça prévient des maladies qui éviteront des arrivées aux urgences, qui éviteront des drames. Enfin, je veux dire, c'est un vrai investissement.
Mais je pense que incessamment sous peu, on va avoir des mutuelles, entre autres.
Oui, qui vont prendre en charge.
Qui vont prendre en compte
ce type de produit. C'est clair.
Ce type de produit et, à partir de là, faire des prix particuliers.
Exactement.
Si...
Ouais. En tout cas, saluons encore une fois la qualité technologique de WeSings.
Absolument, c'est remarquable.
Tout à fait, qui est une boîte française, rappelons-le, même si son nom n'inspire pas ça. Victor, on enchaîne avec Fitbit maintenant.
Alors, la Versa 2, qui est une jolie petite montre qui est sortie il n'y a pas longtemps. La Versa 2, c'est parce qu'il y avait une Versa 1. La Versa 2, elle a un peu le même design que la Versa 1, qui est assez jolie. C'est une montre d'activité, je dirais, de ville. Bon, elle peut être utilisée, bien entendu, pour le sport et pour un certain nombre d'autres choses, mais fondamentalement, elle a un côté design recherché qui est assez joli.
Alors, c'est un grand écran, hein ?
C'est un grand
écran. C'est un peu la... Voilà, c'est pas qu'elle ressemble à l'Apple Watch, parce que ça serait... c'est un peu... Voilà.
Oui,
mais,
non,
mais enfin, on est dans le même design,
à peu près. On est dans un design carré à bord à coin arrondi, donc bon. C'est un grand écran. Par rapport à la précédente, elle a gagné en autonomie. L'autonomie, allez, c'est officiellement 5 jours. Quand on en fait 4, on est plutôt content, mais on les fait vraiment. Enfin, ça dépend comment on va l'utiliser, hein. Il est clair que si on ne sert pas de ses possibilités, on atteindra 5 jours. Elle a gagné un écran qui est un peu plus grand et plus lumineux que le précédent. C'est un OLED, ce qui permet maintenant d'avoir une fonction de type fonctionnement permanent. Mais si on est en fonctionnement permanent, bah, il est clair que les batteries, elles vont durer moins longtemps. Et bon, c'est un joli produit qui continue un succès avéré, hein, puisque la Versa 1 fait partie des 3 montres les plus vendues en France, 3 montres connectées 100 ans. Et les gens de Fitbit ont fait ça comme il faut. Il faut savoir que en Angleterre, en Belgique, en Hollande, et je ne sais plus où, en Suède ou en Norvège aussi, elle permet de faire cette fameuse mesure de fibrillation auriculaire
D'accord.
dont nous parlons tout
qui
à l'heure.
Qui n'a pas encore été validée chez nous, c'est ça ?
Qui n'a pas été... Alors, elle a eu l'agrément CE médical pour ses différents pays,
puisqu'on
en Europe, mais pour la France, ça n'est pas encore lancé. Il faut savoir que ce service qui fait donc, d'une part, un électrocardiogramme, d'autre part, qui s'occupe de l'apnée, du sommeil, etc., est un service qui est payant.
Ah d'accord, ok. Hein,
dans le cadre d'un abonnement particulier.
Donc un abonnement quoi, mensuel, annuel
pour, mensuel, pour... alors...
On ne sait pas trop, d'accord. Mais c'est pas, c'est
on
ne
sait compliqué. Pas ce qui sera en France, mais dans l'essai en Europe, puisque c'est un essai à l'heure actuelle, c'est un abonnement de, à base mensuelle.
Ouais.
Et puis, donc un moyen pour Fitbit de récupérer des sous. Et puis pour continuer à en récupérer, alors ils ont sorti une gamme
de
bracelets. Alors de toute nature, et encore j'en ai amené que quelques échantillons en plastique, en cuir, en textile.
D'accord. Bon. C'est, bah oui, bah maintenant, aujourd'hui, une montre, c'est un objet qu'on est fier de montrer.
C'est un objet...
Quand on voit les bracelets qu'il y a pour l'Apple Watch, c'est incroyable. Ouais,
exactement. Et bah Fitbit, c'est pareil, ils les vendent. Et ça leur permet de rentrer un peu dans les frais. Ils ont quelques problèmes à l'heure actuelle économique.
Après Fitbit, on s'intéresse à Huawei. Alors Huawei qui a des problèmes avec ses portables, c'est peut-être un petit peu plus simple avec les montres.
Alors, à Munich, ils ont présenté, à Munich, c'était le 19, dans mon souvenir, 19 septembre, ils ont présenté officiellement cette montre qui est la Watch GT2. Qui est très belle. La GT1 était déjà très belle. La GT2 est encore plus belle. Mais elle est bien améliorée par rapport à la précédente, avec là aussi un écran OLED, là aussi la capacité à avoir un éclairage permanent. C'est une montre qui ne repose pas ni sur Google, ni sur aucun autre OS, sauf l'OS LightOS, qui est propriété
D'accord.
de Huawei, donc ils n'auront pas de problème. Le défaut, mais comme c'est vrai comme chez Fitbit, par exemple, le défaut, c'est qu'on n'a pas une base de données où aller chercher des applis de toute nature. Ceci étant, elle a des fonctions sportives assez développées. Elle a une élégance incontestable.
Oui, elle est plutôt jolie. Elle est ronde. Hein. Alors, l'écran est rond par rapport à l'Apple Watch qui est carré.
Elle fait un suivi de pouls. Elle est vraiment très belle. Elle est particulièrement légère. J'ai été bluffé. Vous voulez la soupeser? J'ai été bluffé
par sa légèreté.
Elle fait quelques 55 grammes, une qualité d'affichage qui est superbe.
Et puis alors donc...
Plein de sport.
Fréquence cardiaque aussi, quand même. Elle n'a pas les fonctions ECG comme l'Apple Watch, etc.
Non.
On n'est pas là-dessus. En revanche, on peut stocker de la musique aussi, pour l'écouter en Bluetooth.
On peut stocker de la musique. J'ai oublié de le préciser, que c'était vrai aussi pour la Fitbit. La Fitbit, d'ailleurs, dont j'ai oublié de préciser, qu'elle fonctionne aussi sous Alexa.
D'accord, oui. Donc on peut parler à sa montre.
Allez, on peut causer à sa montre. Mets-moi donc 10 heures et sur 10 heures, blabla.
Bon. Et sur 10 heures, blabla.
Oui, voilà. Par exemple.
Je ne sais pas si Alexa sera contente si on lui dit 10 heures, blabla, mais on peut
essayer. Mais ce n'est pas très grave.
C'est pas grave.
Donc...
La Huawei Watch qui a aussi une autonomie, enfin en tout cas parce que j'étais à Munich
Ce qui est exceptionnel, c'est les 15 jours.
Voilà, 15 jours
d'autonomie. Ils annoncent 2 semaines d'autonomie. Alors, très honnêtement, je ne l'ai pas depuis assez longtemps
pour
pouvoir dire si c'est 15 jours, parce que comme elle a été annoncée officiellement le 19, mais d'accord. Elle a de la gueule, belle montre.
Très jolie montre, merci beaucoup Victor, je ne l'avais pas maintenant,
et
grâce à vous.
Et un prix décent, 250 euros.
Oui, ça va.
C'est livré avec 2 bracelets, un bracelet cuir qui est monté, et un silicone, parce qu'il est évident que comme elle est étanche, si on va se baigner avec... Le cuir, il aimera pas.
Oui, très élégante cette petite Huawei Watch GT2.
Assez grosse Huawei. Ouais. Elle fait 46 mm. Hein.
À noter qu'on peut passer des appels aussi avec, hein, fonction appel, etc. Sous Android, mais sous iOS, ça ne marche pas parce que Apple, vous savez, ferme un peu le système.
Oui, mais on peut passer des appels, on peut plutôt les recevoir.
Oui, voilà, les recevoir.
En réalité.
On peut parler à sa montre, il y a un petit ampli, un micro.
C'est le téléphone qui reçoit et on est relié au téléphone en Bluetooth, avec une nouvelle puce Bluetooth d'ailleurs, qui équipe tous les produits Huawei, y compris les écouteurs.
Qui permet plus de portée, je crois, hein, c'est
qui,
ça
qui assure un service amélioré en termes de portée et de robustesse, c'est-à-dire de moindre perturbation.
Très bien, voilà pour la Huawei Watch. Il nous reste
GT2.
GT2,
hein.
Bien sûr.
Du coup, la GT1 n'est pas une mauvaise affaire. Il y en a en solde
à
prochaine.
Évidemment, ça va brader. Après, on n'aborde pas ensemble le problème géopolitique de Huawei, hein, qui se retrouve.
C'est
quand même dramatique. Hein. Je ne sais pas si vous étiez à Munich, mais moi, j'étais à la conférence de presse de Huawei qui présentait son Huawei Mate 30. Téléphone qui vraisemblablement ne sortira pas en France parce que il n'y a pas Android, en tout cas il n'y a pas les services de Google, ce qui est quand même incroyable.
Ceci étant, je connais un certain nombre de cinéastes professionnels qui sont prêts à l'acheter.
Oui, bien sûr.
Parce que les caractéristiques vidéo de ce téléphone sont tellement exceptionnelles qu'elles permettent de faire des choses pour lesquelles il faut aujourd'hui des caméras valant plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Oui, c'est
donc,
clair.
Comme caméra d'appoint, je connais des mecs prêts à plonger tout de suite.
C'est clair. Mais c'est bien dommage que cette bataille américaine entre les États-Unis et la Chine entraîne ce type de choses.
Nous sommes bien d'accord.
On enchaîne avec Garmin maintenant.
La dernière, le troisième.
Alors Garmin, qui est l'un des plus gros vendeurs de montres connectées au monde. Hein.
C'est le plus gros.
Eux, ils sont malins, Garmin, parce qu'ils se sont dit, OK, on ne va pas se battre sur les plates-bandes d'Apple, on va faire des montres sport. Voilà.
Garmin a toujours été un grand spécialiste du GPS. Moi, les bateaux sur lesquels je me balade en Bretagne, ils ont tous des GPS Garmin.
Oui, bien sûr.
Garmin a été un des premiers fabricants
des GPS de voiture. On avait GPS
terrestre.
Ils tirent la bourre avec TomTom, avec des boîtes comme ça.
Ouais. Et donc, mais ils étaient même là avant TomTom sur le plan du GPS. Et donc, ils ont fait effectivement des montres qui sont des montres, alors très clairement dédiées sport. Aucune autre montre à l'heure actuelle n'a autant de possibilités, enfin en dehors de chez Garmin bien sûr, n'a autant de possibilités sportives que cette Venue. Ça s'écrit Venue et ça se prononce Venue, paraît-il, moi je veux bien. Aucune n'a vraiment autant de possibilités sportives, que ce soit en coach, en exercice, en entretien, en entraînement, que sur des choses très spéciales, comme par exemple la possibilité de charger des parcours de golf d'avoir à travers le GPS l'indication de mon trou, il est à 128 mètres 70, s'il vous plaît. Le GPS étant un GPS ultra précis, utilisant aussi bien les fréquences GPS américaines, les satellites GPS, que les Russes Galiléo. Et que Galiléo, qui est aujourd'hui le plus précis de tous. Même s'il n'a pas la couverture,
il n'est pas complété, hein. Enfin,
il n'a pas la couverture qui va partout. Mais
il y a des galères, non, de lancement de satellites. Il y en a qui marchent pas. Enfin, c'est un peu.
Ah non, c'est fini.
Ça va, c'est fini.
Non, il y a eu un problème.
Il y a eu un problème. D'accord. Non.
C'est pas.
C'est le GPS européen, hein, Galiléo. Hein. C'est vraiment la réponse au GPS, on va dire.
Ah ben, c'est le GPS européen avec la volonté d'être plus précis et de faire des points à un mètre.
Victor, on est d'accord que cette montre-là s'adresse aux sportifs.
Hein. Elle est fondamentalement faite pour les sportifs.
Ils sont prêts à investir un peu d'argent, on va en parler tout à l'heure.
Elle a entre autres un oxymètre de pouls, ce qui va intéresser les gens qui font de l'escalade, parce qu'au fur et à mesure où on monte, bah, le taux de saturation en oxygène dans le sang diminue. Or, que, quand on n'a plus d'oxygène dans le sang, le moteur ne marche plus. Hein,
Non, c'est vaut mieux avoir de l'oxygène dans le sang, les amis.
Oui, au-dessus de 90% de préférence. voilà, non, mais c'est une belle montre sportive qui est nouvelle, qui a un très bel écran OLED et qui, finalement...
On est d'accord que si on est un sportif, si par exemple on court beaucoup, si on nage beaucoup, enfin voilà, si on fait du sport de manière intensive, c'est vraiment le meilleur compagnon pour tous ceux qui veulent monitorer à la fois leur performance, mais aussi leur santé, etc.
Y en a d'autres chez Garmin, mais celle-là qui vient de sortir,
c'est le top du top,
est un rapport qualité-prix. Élevé le prix, 380.
380 euros. Hein.
Ouais. Voilà. Mais c'est le truc le plus complet.
Est-ce qu'on est obligé d'avoir le smartphone à proximité pour qu'elle fonctionne ou pas?
Ah non, le GPS est intégré, comme dans la Huawei d'ailleurs.
D'accord, donc je peux laisser mon téléphone.
La Fitbit n'a pas le GPS intégré, mais les deux autres,
en revanche, il n'y a pas de fonction GSM hein, sur ce montre-là. Hein.
Non.
On ne peut pas, comme avec l'Apple Watch, du tout coupler un abonnement 4G, etc.
Non.
Voilà pour la Garmin Venue, 380 euros. Là aussi, il y a des couleurs qui existent différentes. Voilà, si vous voulez un peu.
Oui.
Évidemment, vous faire plaisir. Et on va terminer avec le dernier produit de la sélection de Victor. Il s'agit de la Next Base Dashcam. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, Victor?
Une dashcam, on sait ce que c'est. Hein, c'est une caméra qui est fixée dans une voiture et qui permet d'observer, soit devant, soit derrière, ça dépend où on la met, d'observer ce qui se passe. En cas d'accident, un dispositif détecte effectivement qu'il y a eu quelque chose de brutal et fige et stocke les images correspondantes de façon à pouvoir servir dans certains cas de preuve. Et d'ailleurs, c'est maintenant officiellement reconnu depuis très peu de temps en Allemagne et en Suède. Les dashcams sont des preuves officielles.
Voilà, c'est-à-dire que j'ai un accident, il y a, on va dire, polémique sur ce qui s'est passé, sur les responsabilités, etc. On va dire que la justice peut prendre en compte les images de la dashcam.
Absolument.
D'accord.
Donc, NextBase, c'est une grosse boîte anglaise, enfin anglaise un peu chinoise, mais bon, anglaise, disons. C'est le numéro un en Angleterre, ils ont 90% du marché maintenant.
Ah oui.
Ouais, c'est monstrueux. Ils ont plein de modèles et ils ont sorti la série 2. Oui. Celui-là est le 322, mais il y a un plus haut de gamme, il y a deux plus hauts de gamme, il y a des plus bas de gamme. Celui-là est intéressant à pas mal d'égards. Alors, on a une dashcam classique, on est full HD, on a 140 degrés d'angle, on a vision nocturne, on a tout ça.
Tout ce qu'il faut.
Comme tous les autres. Ça s'installe commodément à l'aide d'un support.
Voilà.
On va fixer sur le
pare-brise. Avec la petite ventouse qui va bien.
Hein, avec la ventouse qui va bien. Bon, et c'est...
Il faut le brancher sur l'allume-cigare ou pas?
On doit le brancher sur l'allume-cigare.
Donc ça fait un petit câble supplémentaire.
Il y a une carte SD, hein, classique. Mm-hmm. Alors, il y a une particularité, moi, qui m'a bien amusé. C'est qu'on peut brancher une seconde caméra.
Tiens, c'est rigolo.
Qui va
nous filmer, nous.
nous filmer, nous, si on le met devant, effectivement, ça va filmer l'habitacle.
D'accord.
Et éventuellement un peu.
Mais ça sert à quoi de filmer,
un peu ce qui passe derrière. Bah, si on recherche des preuves de problèmes de conduite je dis pas que celle-là est obligatoirement faite pour faciliter la vie du conducteur, s'il se met en faute.
Ouais, et puis je pense que ça peut poser des problèmes de vie privée aussi. On n'a pas forcément envie de vous voir mettre le doigt dans le nez quand vous conduisez, etc., non ? Je veux dire, autant de l'autre côté, ça a du sens, mais de ce côté,
tant
je vois pas
que vous n'avez pas de problème.
Oui, d'accord. Bon. Et alors, donc ça, c'est un module optionnel, on est d'accord ?
C'est un module optionnel. Alors, le 322GW, donc ce nouveau dashcam avec son support, etc., vaut la bagatelle de
entre 150 et 200 euros.
Voilà, ça se balade. Hein.
D'accord.
Et le module additionnel vaut 100 euros. Bon, de toute façon, on le met ou on ne le met pas. Mais je trouve que ce n'est pas idiot de l'avoir prévu et de l'avoir intégré.
Alors, c'est Bluetooth et Wi-Fi, bien sûr, j'imagine.
C'est Alexa.
Voilà, maintenant. Alexa aussi.
Alors. Ah, bah Alexa partout.
Un peu trop partout, non ? Non ? Qu'est-ce que vous en
pensez ? Moi, personnellement, je trouve trop partout. Et pour n'en rien vous cacher, j'aime pas du tout. Mais...
Il n'aime pas Alexa, Victor. On l'a bien compris. Merci, Victor.
J'ai une copine qui s'appelle Alexa, que j'aime beaucoup, l'aimait. Par contre.
Bon, ben voilà, on l'embrasse.
C'est autre chose.
Parfait. Merci, Victor.
C'est rien.
Victor Jakimovic, donc, pour sa sélection... encore une fois hyper intéressante des nouveaux Tytech avec la bracelet et montre entre autres. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci d'avoir été avec nous, bon week-end. N'hésitez pas à nous retrouver donc en version audio sur rmc.fr, la version vidéo sur 01nettv.com et sur YouTube, et on sera là vendredi prochain. Salut à tous.
De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01nettv.